que dans les villages, la prééminence de la détermination sociale sur la détermination économique de la dette se marque dans la relation au temps, qui permet au lien de la dette de traverser les générations, dans les intérêts qui sont modérés à chaque succession, et dans l'assignation sur aucune terre précise. Parce que dès que c'est assigné sur une terre précise, là, les mécanismes de compensation jouent. Mais quand il n'y a aucune terre qui est précisée, c'est là où on voit qu'on ne va pas prendre la... Et quand j'ai regardé ce que j'ai dans les Alpes, je n'ai jamais vu de créancier obligeant un débiteur à lui vendre sa maison. J'ai trouvé des échanges de maisons. Et le déclassement des familles se lit dans cette circulation où les plus belles demeures s'échangent contre des plus sommaires. Et ces assurances transforment la dette matérielle en dette morale. Le débiteur considère son créancier comme un bienfaiteur qu'il a à cœur de défendre contre ses rivaux, d'aider dans les procès, de protéger du pouvoir central. Et d'ailleurs, les imprimés dans les procès du XIXe siècle, que j'avais vus en Oisans, marquent encore que le témoin qui parle n'est ni parent, ni débiteur. Et le lien de crédit est indiqué encore au XIXe siècle comme un empêchement pour venir témoigner. Et en fait, au XVIIe siècle, à Clavant, les habitants justifient leur refus de changer de collecteur de taille, qui était un protestant, etc., en avançant que ce changement pourrait causer la ruine des plus pauvres qui subsistent grâce aux animaux que l'actuel collecteur leur donne en hivernage et dont le revenu leur permet de payer plus facilement taille et charge. Et donc voilà, pour ensuite la dette finalement signe du pouvoir sur les hommes, surtout à ces époques-là. Et la dernière chose que j'avais voulu montrer, mais je ne vais pas vous montrer maintenant, qui était de montrer que, là j'ai étudié la dette comme une espèce de mécanique assez rigide, mais il faut toujours penser que les débiteurs ont aussi des stratégies. Et j'ai essayé de voir comment les débiteurs peuvent jouer des stratégies pour échapper à cette mécanique rigide. Essentiellement c'est le secret, c'est la multiplication des créanciers, et comment les créanciers, eux, se rachètent les créances pour se constituer des clientèles qui tiennent. Donc voilà.
Merci. On va tout de suite faire comme on a fait en première partie, c'est-à-dire passer la parole à Céline et puis faire une discussion collective. Céline, que tu as présentée.
Non, je...
D'accord. Je vais mettre maître de conférence en sociologie. Voilà, qui a fait sa thèse. Sur le vignoble, donc elle nous a donné des larges extraits dans le texte que vous avez dû avoir, et qui a fait l'effort de recentrer un petit peu toute sa problématique par rapport au crédit qui émerge à beaucoup d'endroits dans son travail, sauf qu'elle n'est jamais traitée, j'ai l'impression, frontalement, donc c'est un exercice pas évident, et en même temps, je pense que c'est intéressant.
Voilà, donc j'ai pas travaillé, contrairement à tous les autres intervenants aujourd'hui, directement sur le crédit, mais j'ai fait une thèse donc là aussi c'est un peu différent, à partir d'une enquête ethnographique sur les exploitations familiales viticoles de la région de Cognac, une enquête que j'ai menée entre, disons, la fin des années 90 jusqu'à 2005. 1997, et donc cette thèse, elle était centrée sur la reprise de ces entreprises familiales viticoles, en sachant que ce que j'entends par reprise, c'est pas du tout seulement un moment court qui serait l'installation professionnelle, c'est-à-dire le fait qu'un jeune viticulteur devient chef d'exploitation ou co-exploitant, mais comme quelque chose de beaucoup plus large et du coup beaucoup plus long, qui va de la socialisation professionnelle jusqu'à l'accès au statut de chef d'entreprise ou de co-exploitant, et aussi toutes les questions de transmission de la propriété, puisque ce sont presque toutes des exploitations viticoles en propriété. Alors, ce que je vais essayer de faire là, c'est j'ai essayé de trouver une sorte de fil directeur à partir de ce matériau qui n'a pas du tout été constitué, écrit en mettant le crédit au centre. Je vais essayer de faire une sorte de relecture de ma thèse avec le fil directeur du crédit. Et en fait, ce qui est étonnant, si je me suis rendu compte maintenant, c'est que ça marche pas mal. Alors, donc voilà, la première chose que je voudrais resituer, c'est le cadre économique dans lequel ces jeunes viticulteurs reprennent une entreprise viticole aujourd'hui, qui en gros, depuis le milieu des années 70, et celui d'une surproduction chronique, c'est-à-dire qu'il y a trop, de vignes et elles produisent trop par rapport aux eaux de cognac qui sont vendues. Alors, si vous avez lu un peu ce que je vous ai envoyé, vous savez que le cognac, en fait, est essentiellement commercialisé par 4-5 grandes maisons de négoce qui appartiennent à des multinationales du luxe et des alcools et des vins, qui sont ainsi Courvoisier, Rémy Martin, voilà, pour les plus grosses d'entre elles. Donc ce moment économique dans lequel les jeunes viticulteurs que j'ai étudiés reprennent une exploitation, c'est celui d'une surproduction chronique traversée de bulles spéculatives. Alors, pendant toute mon enquête, les viticulteurs me disaient, ah oui, je n'ai pas dit ça, la méthode d'enquête, c'est donc une enquête ethnographique, essentiellement par monographie de famille, c'est-à-dire que j'ai rencontré, mon point d'entrée, c'était ces jeunes viticulteurs, presque toujours des hommes, âgés entre, disons, 25 et 35 ans, et puis j'ai remonté, j'ai élargi l'enquête à leurs parents, grands-parents, frères et sœurs, et leurs compagnes, parfois leurs enfants, quand il y en a eu. Ce qu'ils n'arrivaient pas à dire pour décrire la situation économique du marché du cognac, c'était de dire que le cognac, c'est un marché en dents de scie. Alors longtemps, je ne les ai pas cru. Donc dents de scie, ça voulait dire qu'il faut tenir les mauvaises années pour profiter des bons moments où là, d'un seul coup, les prix augmentent, la demande des grandes maisons augmente, les prix augmentent, et là, il faut en profiter. Et il faut absolument tenir les mauvaises années pour profiter de ça. Longtemps, je ne les ai pas cru, puisque moi, j'ai commencé mon enquête en 1997, que la dernière période de ce qu'ils appelaient l'euphorie du marché du cognac, c'était la fin des années 90, 88, 89, 90, et qu'en 1997, ils s'installaient franchement dans une période où le cognac se vendait pas, les stocks s'accumulaient. Et puis en fait, j'ai fini par y croire à la toute fin de la thèse, quand à nouveau, à partir de 2004, 2005, et puis encore plus, quand j'ai arrêté la thèse, 2006 et aujourd'hui, de nouveau, la demande de cognac mondiale a augmenté très fortement, les prix ont fortement augmenté, et ceux qui avaient réussi à tenir ces très longues années en ont profité. Et alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, je le dis très vite, ça c'était bien cité dans le texte, c'est que là j'ai parlé des viticulteurs en général, mais en gros il y a des riches, il y a des pauvres, il y a ceux qui font que de la vigne et ceux qui distillent le cognac, il y a des petits exploitants, il y a des gros exploitants, ça va d'une bourgeoisie viticole à des petits producteurs qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et du coup, si je relis avec le crédit, mon espèce de sociologie économique de ces viticulteurs qui reprennent les exploitations, c'est qu'à partir du crédit, on peut relire toutes les histoires de la domination de ces viticulteurs par le négoce, par ces très gros négociants qui, dans les années 90, ont fusionné, les maisons de négoce moyennes ont fusionné entre elles, et en gros, maintenant, c'est vraiment quelques multinationales, 3-4, qui tiennent tout entier le marché du cognac. Et notamment, dans la période que moi j'ai étudiée, qui était plutôt une période où le cognac se vendait mal, ces grandes maisons de négoce ont mis fin à leur politique contractuelle, donc ils avaient un certain nombre de fournisseurs à qui, chaque année, ils prenaient une certaine quantité d'eau de vie ou de vin selon les producteurs à un certain prix. La situation était telle que le cognac se vendait si mal que les négociants, les quelques négociants qui étaient là, ont mis fin à ces contrats et ont développé ce qu'ils appellent des contrats bonne fin, MC étant la championne des contrats bonne fin. Les contrats bonne fin, c'est en fait des contrats. Les viticulteurs appelaient ça des contrats au lance-pierre. J'ai l'expression dans ma tête, je ne vais plus m'en rappeler, mais en gros, où rien n'est garanti, ni le prix, ni le moment où on va vendre le cognac. Puisque le principe, c'est de livrer son vin après la récolte. Les NC, donc, puisque c'est la principale maison qui fait ça, NC fait distiller ce cognac par un de ses distillateurs. Et le fait stocker par ce même distillateur, plus par une entreprise de stockage aussi. et ne paye le vin pris au viticulteur que 3 à 4 ans plus tard. En sachant que les contrats sont faits de telle sorte que c'est même pas sûr. Enfin, c'est pas sûr de la quantité exacte qu'ils paieront effectivement au bout de 3-4 ans, et c'est même pas sûr non plus du prix auquel ils paieront ce cognac. Donc, vous voyez, j'en arrive là au crime. Parce que les viticulteurs ont accepté ce type de contrat. Ont accepté ce type de contrat en faisant parallèlement à ça des varants, c'est-à-dire des crédits sur gage. Donc le gage, c'est le stock du cognac lui-même. Et donc les banques ont prêté, ont fait des emprunts à, je ne sais pas comment on appelle ça, crédit interne, sans doute 3-4 ans aux viticulteurs, qui pouvaient présenter un contrat bonne fin de la maison, ainsi, ou Rémy Martin, ou quoi. Voilà. Donc voilà, donc il me semble que l'apparition de ces crédits de court et moyen terme, ça c'est... Alors après, bon, voilà, moi, ce à quoi j'ai accès, c'est la manière dont les viticulteurs en parlent, à quel point c'est très dur de rentrer dans le roulement de ces... Enfin, on voit à quel point ils sont dominés dans cette relation avec ces contrats de fin et avec cette pratique de crédit qui s'y superpose. On voit bien que la relation fournisseur client est complètement déséquilibrée. Voilà, donc on sent qu'à travers leur gestion très difficile de leur trésorerie à cette période-là et les pratiques de crédit qui vont avec, on voit ce rapport de domination. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'ils acceptaient. Alors certains acceptaient ces contrats très défavorables parce qu'ils espéraient, à côté de ça, bénéficier de rentrer dans les petits papiers, avoir leurs entrées, comme ils disent, dans la grande maison, et pouvoir vendre autrement à des meilleurs prix des eaux de vie plus vieilles ou si le marché reconnaît faire partie des bons fournisseurs. Et de fait, c'est une stratégie qui a fonctionné pour certains moments au marché du cognac a repris. Se superpose à ces crédits de court et moyen terme et à cette relation de domination des négociants la stratégie de l'agrandissement. Parce que continuer à être un fournisseur de ces grandes maisons de négoce au cours des années 90 et 2000, il fallait que les viticulteurs fassent leurs preuves sans cesse. Ils disaient, même si on a toujours été fidèles, on n'est jamais tranquille. Et n'être jamais tranquille, ça veut dire faire les investissements que les grandes maisons leur imposaient. Alors, ça pouvait être des investissements matériels, rénover leurs chais, rénover leur cuve, des choses comme ça. Et surtout, ça voulait dire s'agrandir en hectares. Parce que il y a eu des signaux très forts dans la région des unités, enfin, localement, comme quoi les grandes maisons n'allaient plus prendre de cognac ou de vin chez les plus petits viticulteurs. Donc à un moment, il y avait NC ne prendra plus de vin au moins de 10 hectares. Donc du coup, ils se sont tous mis comme des malades à acheter des vignes, alors qu'ils étaient très mal déjà financièrement. Et donc, c'est là qu'on rejoint le cycle de vie, le moment de l'installation d'un enfant, et un moment, enfin le moment de la reprise, où il y a une nouvelle génération qui arrive, est un moment où cette contrainte de la taille de l'exploitation pour rester en fait un fournisseur de la grande maison s'imposait encore plus. Avec derrière ça, donc il y a les injonctions des grandes maisons, avec derrière ça aussi tout l'appareil professionnel agricole qui pousse pour donner des aides à une transformation de l'appareil de production, à ce qu'il y ait des investissements. Et donc du coup, c'était des moments, le moment des reprises, où ils empruntaient, essentiellement des emprunts du coup fonciers, pour agrandir. J'avais un très bel exemple là, c'est dans ma thèse, où en gros, c'est un jeune viticulteur qui s'installe sur l'exploitation qui jusqu'à présent était dirigé par son père. Ils vont s'installer en GAEC pendant quelques années, le temps que GAEC persiste, le temps que le père parte à la retraite. Le GAEC va sans doute durer 7-8 ans. Et en fait, l'exploitation passe de 9 hectares à 30 hectares en l'espace de 3 ans, ce qui est un investissement en propriété, ce qui est énorme en termes de mobilisation financière. Et ce qui était amusant, c'est qu'au cours de l'entretien avec le fils et avec le père, il faisait le calcul financier de cet investissement. Enfin, il m'expliquait, moi je demandais beaucoup de chiffres, donc il me disait exactement combien ils avaient emprunté, combien ils allaient rembourser. Il se rendait compte au fur et à mesure de l'entretien à quel point ce n'était pas du tout rentable. Donc il compare ça avec le SMIC, après il compare ça avec la caisse d'épargne. En plus, le père va partir à la retraite et va avoir pendant ses 5 premières années de retraite à rembourser lui-même sur ses fonds propres l'emprunt. Donc en fait, il se rendait compte à quel point cet investissement était risqué, parce que aussi risqué parce qu'il dépend complètement de la politique d'achat de la grande maison, risqué et très lourd à porter. Alors voilà.